Adolphe Ribot, Idéal. Une soirée joyeuse entre garçons, tous amis intimes, chez le peintre Jean de Serre. Le dîner venait de finir, et nous avions passé, dans l'atelier, petit mais charmant, plein d'objets curieux, de tableaux, de bronzes d'art. Les croquis, les dessins, les eaux fortes débordant des portefeuilles, les tapis, les riches tentures d'Orient épars sur tous les meubles. On avait apporté le café, l'eau-de-vie pailletée d'or, le cumel, les liqueurs rares étincelaient dans les flacons de cristal irisé et d'aventurine. Une fine odeur de tabac s'était répandue. Jean de Serre habitait près du parc Monceau. Le frisson des grands arbres agités par la brise tiède de cette belle soirée de printemps nous arrivait par intervalles, avec le murmure assoupi du Paris nocturne. Un d'entre nous s'était mis au piano et jouait une sonate de Schubert passionnée et tendre, dont l'harmonie, par la fenêtre ouverte, allait se perdre dans la nuit pleine d'étoiles. Étendu dans un fauteuil, Urbain Laville, le poète, suivait silencieusement les nuages bleus de sa cigarette. Une étrange nature que ce poète. La vie lui avait toujours souri. Riche, il n'avait jamais eu besoin de travailler pour vivre. Il ne connaissait pas grand-chose de la lutte. Ses vers étaient mis en bonne place dans la bibliothèque des délicats. Et il venait de débuter avec succès dans le roman, par une histoire d'amour très simple, mais d'une fine psychologie, et encadrée dans un coin de paysage exquis. Depuis quelques mois, Urbain Laville nous étonnait par les fréquentes variations de son caractère. Pendant longtemps, joyeux garçon, vif, spirituel, volontiers mordant quelquefois, jouissait de tous les bienfaits de la terre, de l'azur, des roses, des radieux couchers de soleil, du sourire des femmes. Il avait été pris tout à coup d'une profonde et mystérieuse mélancolie. Il s'était comme retiré du monde. On ne l'avait plus aperçu que rarement. Il semblait chercher l'ombre, la solitude et le silence pour y abriter sa tristesse. En vain avions-nous essayé de pénétrer son secret. D'un mot, il avait arrêté toutes les questions sur nos lèvres. Puis soudain, il était reparu parmi nous, et il avait repris la plupart de ses habitudes. Il s'était remis à vivre. Seulement, sa gaieté n'était plus la même. Il n'était plus le capricieux et léger poète. Il avait désormais sur son visage une expression de gravité sereine et de nostalgique douceur qui ne le quittait pas. Et ce soir-là, quand la musique se fut tue, en le voyant rester silencieux et rêveur parmi le bruit de la vive causerie et les éclats de rire, le même désir nous revenait de connaître enfin le mot de l'énigme. « Car il y a une énigme, » dit Jean de Serre. « Raconte-nous ça, Urbain. Manques-tu de confiance ?»« Nous t'écoutons. » »« Eh bien, soit, puisque vous le voulez. » L'histoire est simple et mélancolique, comme la vie. Et quand nous eûmes rallumé nos cigarettes et rempli nos verres, il commença son récit. Nous sommes amis depuis toujours, dit-il. Vous me connaissez. Vous savez que ma jeunesse a été chaste. À peine quelques fantaisies, quelques courtes illusions, mais pas d'amour. Sur ce chemin facile de l'homme du monde, je ne me suis pas baissée pour cueillir les fleurs offertes. Sous mon masque rieur, d'apparence futile, je gardais mon âme inoccupée et j'attendais patiemment l'heure où elle devait être remplie. Tandis que vous suiviez joyeux votre caprice, respirant tous les parfums, vous grisant de tous les regards, buvant à toutes les coupes, je me sentais incapable d'aimer deux fois. Quelques passions d'un jour, frêles oiseaux de passage, s'étaient vite envolées. Je ne souffrais pas, je trouvais, autant que vous, l'existence heureuse et belle, les femmes charmantes, Paris splendide. La source divine ne s'était pas encore ouverte en moi, mais je la sentais bouillonner, prête à jaillir, et j'attendais celle qui devait la faire éclore. Personne d'entre vous ne s'en doutait. Vous me voyez, comme vous, passer dans la fête. Je gardais la pudeur de mon rêve. Un matin, l'automne dernier, je traversais le Luxembourg. L'heure était ravissante, rien ne m'appelait nulle part. Je m'accoudai sur l'une des balustrades, juste à l'extrémité de l'allée qui, de la rue de Fleurus, va droit au grand bassin. Une légère brume se traînait, dorée par le soleil, et laissant transparaître le bleu très pâle. Octobre avait mis sur les arbres des tons chauds de bronze, de cuivre, d'ocre sombre. À chaque souffle de vent, des feuilles tombaient, comme des papillons lassés. L'odeur des ramures mouillées était pénétrante dans l'air, mêlée à celle des dernières fleurs d'automne, géraniums et chrysanthèmes. L'eau tranquille des bassins était moirée de teintes violâtres. Quelques oiseaux se baignaient en battant des ailes dans les grandes urnes que la pluie nocturne avait remplies. On se fût cru à 1000 lieues de Paris, tant il y avait de paix, de douceur et d'harmonie dans ce paysage, que je contemplais ému, sans savoir pourquoi. Presque personne. Quelques ouvriers, des collégiens, passant rapides. J'étais seule à rêver dans le vieux jardin, par cette matinée pensive. Un bruit de pas léger me fit retourner la tête. Une femme approchait, venant du côté de l'Odéon. Elle monta le large escalier de pierre, passa à côté de moi, s'enfonça sous les arbres et disparut en laissant derrière elle comme une traînée de parfum et de lumière. Cela avait duré quelques minutes, moins encore. Je l'avais à peine entrevue, mais tous ses traits sont restés gravés dans mon souvenir. Elle était grande, svelte et délicate, vêtue simplement d'une robe sombre, drapée à plis amples, les cheveux blonds, recouverts d'une cendre si fine, étaient rattachés sur la nuque. Elle avait de larges yeux, couleur de pensée pâle, une de ces teintes indécises, comme on en voit au lac du Nord, éternellement nuancée par le caprice errant des nuages. Sur son front pur et sa bouche, régnait une pensée calme. Elle avait au corsage un bouquet de sombres violettes d'automne. Sa démarche était celle d'une immortelle, une figure adorable, comme on en voit aux anges méditatifs des vieux peintres, parés dans ses moindres détails de ce don de grâce infinie qui transforme tout ce qu'il touche. Je restais là, saisie, clouée au sol, sans avoir même songé à la suivre. Elle avait passé, et je l'aimais. Oui, je l'aimais. Elle avait jailli soudain la source enfouie, Il s'était ouvert, le cœur fermé. La fleur sainte était éclose. Cette femme, c'était celle que j'avais devinée, espérée, attendue, le rêve, la chimère, l'idéal. En une seconde, mon âme l'avait reconnue, s'était tendue vers elle, s'était donnée tout entière et pour toujours. Cette pensée unique m'occupa nuit et jour durant les semaines qui suivirent. Je la revoyais sans cesse, avec sa beauté, son charme, son visage aux lignes si pures qu'un pré-raphaélite eût pris pour modèle dans ce cadre admirable. Le Luxembourg, aux grands arbres rouges, les eaux calmes, ce ciel tendre, cette matinée d'octobre avec laquelle elle était dans un si profond et suave accord. Alors, une douleur immense, une angoisse horrible s'empara de moi. Elle avait passé. Je ne savais ni son nom, ni sa demeure. Je ne la reverrai sans doute jamais. Quoi ? Lorsqu'on est fait pour être ensemble, rester séparés toute la vie ? Ne plus adorer sa chère figure ? Ne pas entendre sa voix ? Suivre chacun sa route avec le monde entre soi ? Tant de songeries, tant d'espérances, les années d'attente avaient donc été inutiles ? Je la rencontrai pour la perdre aussitôt. Auprès d'elle, tout mon être se serait magnifiquement épanoui. Mon âme eût puisé la lumière en ses yeux. Ma jeunesse eût fleuri sur sa bouche. En lui donnant la main, j'eusse traversé la vie par une route triomphale. En plein soleil, le cœur perdu de délices. Et je n'avais touché au fait que pour retomber brusquement sur le sol. L'apparition séraphique s'était envolée, me laissant dans une nuit plus noire. Je n'avais vu la réalité du bonheur que pour mieux en sentir la perte. Vous m'avez connue durant ces jours mélancoliques. Rien n'avait plus de prix pour moi. Partout, je me heurtais à la même tristesse, au même désespoir, au même néant. Partout, je me répétais avec les mêmes sanglots que l'heure de la joie suprême avait sonné pour moi, qu'elle s'était enfuie et que rien n'en devait jamais revenir. Oh, quelle promenade navrée je fis alors dans le Luxembourg dépouillé, où les arbres entrechoquaient leurs branches nues, où les statues grelottaient sous le ciel de grisaille morne. L'endroit où je l'avais aperçu était devenu pour moi un lieu sacré, une sorte de pèlerinage. J'y allais chaque jour, à la même heure matinale, marchant dans la neige souffletée de la bise, cherchant à retrouver quelque chose d'elle, un rayon, un parfum, un souffle. Mais rien, rien. Les jours passeraient, les mois, les années, dans le même vide, dans le même isolement. Elle vivrait, elle souffrirait, elle serait heureuse loin de moi. Jamais ma main ne rencontrerait sa main, mon regard, son regard. Jamais une caresse, jamais un baiser ne mêlerait nos âmes. Je continuerai ma route seule, avec le regret du bonheur perdu, avec cet amour irréalisé me brûlant au cœur, solitaire pendant toute la vie, jusque dans la mort. Ce furent de lourdes et pénibles journées. et je souffris beaucoup. Puis voilà qu'un apaisement inattendu descendit peu à peu dans mon être. C'était comme un souffle des hautes montagnes passant sur une plaine desséchée. Je me repris à croire, à espérer, à être heureux. Un rafraîchissement délicieux, une douceur inconnue m'inondèrent. Les horizons radieux s'ouvrirent devant mes yeux. Je l'avais rencontré, l'ami idéal, la bien-aimée, celle qui était faite pour moi. Donc, mon rêve, mon attente n'avait pas été vain. Elle existait. Ce n'était pas un fantôme de mon imagination, ce n'était pas un songe. Le sort cruel nous séparait. La vie était entre nous. Et qu'importe, la vie est courte, le temps passe, et l'amour est une semence d'éternité. Je pouvais attendre encore, maintenant que je l'avais vu. Attendre que les grains de sable fussent tombés du sablier de la vie. Attendre le bout de la route, où tous les chemins se rejoignent, où toutes les âmes seront unies. Chaque jour, ces pensées s'imposèrent à moi, toujours plus consolantes. Chaque jour, l'apaisement se fit plus vrai. Chaque jour, je compris mieux ce conseil de patience et de résignation. Autrefois, dans les cloîtres austères, des visions divines visitaient les moines agenouillés. Et quand ils les avaient vus, ils étaient heureux. L'âme déjà satisfaite et comblée par cet avant-goût du ciel. Les murs nus de leurs cellules s'illuminaient de paradisiaques lueurs. Ils voyaient au fond des cieux se lever l'aube suprême. Ils avaient bu la première goutte du vin d'extase. Maintenant, moi aussi, je suis paisible. Vous l'avez vu, j'ai retrouvé la joie. Je suis rentrée dans le monde et j'ai recommencé à vivre. Mais vous ne savez pas quelle joie profonde m'environne, quelle sérénité est à présent ma part. La femme pour qui j'avais gardé mon cœur, je l'ai vue. Je sais qu'elle existe et que l'avenir nous donnera l'un à l'autre. Je me détache doucement des choses qui passent et ne contemple plus que les choses durables. Où notre amour doit fleurir. J'ai l'âme ineffablement comblée depuis que je sais l'âme sœur vivante en voyage, comme moi, vers le rendez-vous. J'ai toujours des violettes sur ma table. Dans leur souffle, je respire d'avance quelque chose d'elles. Souvent, le soir, je me mets à la fenêtre et je regarde au ciel la marche harmonieuse des astres. L'un après l'autre, ils se lèvent et ils rayonnent. C'est là-bas, là-haut, dans l'étendue resplendissante, dans quelqu'une de ces étoiles, que nous nous rejoindrons. Je les contemple, je les admire, je leur parle, mes prières et mes vœux montent vers elles. Qui sait? Peut-être l'amie a-t-elle déjà ouvert ses ailes? Peut-être m'attend-elle déjà au lieu du revoir? Je me répète tout cela, assis à ma fenêtre, les yeux perdus dans l'infini, tandis que les violettes embaument. Tous mes vers, c'est elle qui me les inspire. Ils sont pleins de ces pensées calmes, plein de ce serein envolement vers l'au-delà mystérieux et sûr, asile du repos et d'amour, réunion des esprits fraternels que la vie sépare et qui marchent ici-bas dans l'immortelle nostalgie de ceux qui s'attendent d'une étoile à l'autre. La solitude ne me pèse pas, je sais qu'elle doit finir et que l'éternité du ravissement se prépare. Les plaisirs d'ici-bas me semblent bien pâles, comparés aux perspectives rayonnantes de l'avenir. et les chagrins disparaissent devant les magnificences de l'ivresse future. À chaque fois que l'heure sonne, à chaque fois qu'un soir tombe, à chaque année qui s'achève, je me dis que la minute avance de la mort bienheureuse. Et quand la mort sera venue, la mort qui sauve, la mort qui délivre, ce ne seront ni des lauriers, ni des palmes qu'il faudra mettre dans le cercueil de celui qui va rejoindre sa fiancée, mais des lilas blancs et des roses, pour qu'avec ses fleurs de joie, j'aille au-devant d'elle. Les verres étaient restés pleins. Les cigarettes s'étaient éteintes. Nous étions là, 5 ou 6, facilement blagueurs, promptes aux saillies railleuses, volontiers sceptiques. Mais quand Urbain la ville se tut, il n'y en eut pas un seul pour sourire.